vous dira que ça sert à rien, que ça rapporte pas grand chose, que c'est pas un métier, que c'est pour les enfants gâtés. On vous dira que vous vous en mordrez les doigts, qu'il est temps de trouver un vrai travail, qu'à la limite vous pouvez en faire un hobby, mais alors y consacrer toute votre vie, non. Non merci, ce serait de la folie. À quoi sert une œuvre d'art? Se demande justement le poète Claude Roy dans un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Défense de la littérature ». C'est une bonne question. Sûrement pas à donner tout de suite du pain à celui qui n'en a pas, à ouvrir tout de suite les portes des prisons sur les innocents, à supprimer tout de suite l'exploitation, l'humiliation, l'oppression. Les médecins s'occupent des corps souffrants, les ingénieurs des ponts et des machines, les économistes des plans, les agronomes de récolte. De quoi s'occupent les écrivains et les artistes en général? Ils s'occupent, écrit Claude Roy, d'éveiller l'imagination, de désengourdir cette dormeuse si souvent sourde, la sensibilité, de nous faire sortir de nous. La culture, ce n'est pas d'avoir emmagasiné beaucoup de connaissances, c'est d'avoir ressenti beaucoup d'expériences et de sentiments. Ce ne sont pas forcément toujours de bons sentiments, mais il y a une joie aussi à comprendre ou à imaginer grâce aux beaux monstres de Shakespeare ou de Dostoïevski, de Balzac ou de Sade, les abysses où chacun de nous risque de s'abîmer.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a foi dans les pouvoirs de la littérature. Il est romancier et sa voix compte parmi les plus inspirantes aussi bien dans son pays, l'Espagne, qu'en France et dans toute l'Europe. Indépendance, deuxième volume de sa trilogie catalane, vient de paraître dans une traduction d'Alexandra Grujicic et Karine Loesdon, un polar dans lequel son inspecteur Melkor se confronte à la brutalité et au cynisme du fonctionnement des élites politiques, chantage, corruption, jeu de dupes. Bonjour, Javier Cercas.
Bonjour Justin.
Merci beaucoup d'être
Merci
avec nous ce matin. Alors avant toute chose, parce que je sais que ça vous intéresse, à quoi sert la littérature? Quelle est son utilité pour vous?
Vous savez, cette idée de l'inutilité de la littérature, c'est une des grandes superstitions, c'est-à-dire une des grands mensonges de notre temps. Ça a été créé par des... C'est le résultat d'un malentendu, créé par des grands écrivains, je pense notamment à Flaubert, Oscar Wilde, qui ont dit ça pour aller contre le pragmatisme ridicule c'est comme une provocation contre le pragmatisme ridicule de la bourgeoisie de son époque. Mais, alors, qu'est-ce que c'est la littérature? Avant tout, c'est un plaisir. Comme le sexe. Mais aussi, c'est une forme de connaissance. Comme le sexe. C'est pourquoi, quand je trouve quelqu'un qui me dit qu'il n'aime pas la littérature, la seule chose que je veux lui dire, c'est lui donner les condoléances. C'est comme quelqu'un qui n'aime pas le sexe. Est-ce qu'il y a une chose plus utile que ça, que les plaisirs et que la connaissance? La littérature, à la fin, c'est une forme de vivre plus, d'une manière plus complexe, plus intense et plus vraie, non? Et c'est ça, la littérature. Est-ce qu'il y a une chose plus utile que ça? Je ne connais pas.
Alors, c'est passionnant, parce que dans Terra Alta et Indépendance, votre personnage d'inspecteur dit qu'il a été sauvé par la littérature. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que vous y croyez vraiment à ça, qu'on puisse être sauvé?
Il est sauvé. Parce que c'est un personnage très particulier, Melchior Marín. C'est un homme qui a une vie très dure. Il est né dans le quartier plus dur de la Barcelone métropolitaine. Sa mère, c'est une prostituée. Il ne connaît pas son père. À 18 ans, c'est en prison parce qu'il a travaillé pour un cartel de drogue de colombiens à Barcelone. Et un jour, il ouvre un livre qui s'appelle Les Misérables et tout change. Et il y a ce vers de Horace qui dit « De te fabula narratur », l'histoire parle de toi. Et c'est ça qui font les grands livres pour nous, et c'est ça qui fait Les Misérables pour Melchior Marín. Sa vie change complètement, il se découvre à lui-même, Les Misérables c'est un miroir qu'il trouve devant lui pour lui dire qui est lui. Et alors tout change, et sa vie, il le dit à un moment donné, à la fin du livre, il dit « La littérature ne sert à rien, sauf à nous sauver la vie ». Ça, pour lui, ça a été comme ça. Et c'est possible.
Et alors vous, Javier Cercas, est-ce que vous avez été sauvé par un roman?
Pas par un seul roman, mais ma vie est beaucoup meilleure, sans doute, avec la littérature que sans la littérature.
Mais c'est intéressant, parce que j'ai l'impression que ce livre, Les Misérables, incarne une conception de la littérature qui n'est pas tout à fait la vôtre.
C'est vrai.
Melchior, c'est pas vous. Hein.
Pas du tout. Bon, on a dit que Flaubert a dit Madame Bovary, c'est moi. Ok, je ne sais pas si c'est vrai, on dit que c'est pas vrai. Je pourrais dire Melchior Marín, c'est moi, mais seulement dans la partie mauvaise. La partie bonne, c'est complètement lui. Et c'est vrai. Et il y a ces deux. Il est un personnage essentiellement contradictoire. Il est capable de meilleur et du pire. Et oui, Les Misérables, c'est pas le livre que je choisirais si je dois choisir un roman. Pour lui, c'est un livre fétiche. Pour moi, c'est un livre incroyable, c'est un livre extraordinaire, mais je préfère d'autres livres de la même époque. Je dirais, par exemple, le roman de Flaubert, non, Madame Bovary, ou l'éducation sentimentale sont plus proches à moi que Les Misérables.
Oui, parce que pour vous, l'écrivain Javier Sarquez doit bien se garder de s'ériger en juge ou en justicier. Il doit éviter le dogmatisme, la pédagogie, faire en sorte que le lecteur soit libre, toujours libre, dans son interprétation. Ce qui n'est pas forcément le cas des Misérables tout le temps.
Je suis d'accord avec vous, vous avez raison. Il y a un personnage dans ces romans, comme vous, juste d'accord, vous savez, pour moi, l'essentiel, c'est le respect pour le lecteur. Il y a un personnage dans ce roman qui s'appelle Le Français. Qui est le bibliothécaire de la, parce qu'il est français, il est en prison, il est le bibliothécaire de la prison, et c'est l'introducteur à la littérature de Melchior Marin, et il dit une des peu vérités absolues que je connais. Il dit, à un moment donné, la moitié d'un roman l'écrit l'écrivain, l'autre moitié l'écrit le lecteur. Pour moi, c'est une vérité absolue. C'est-à-dire, un roman, c'est une partition. C'est le lecteur qui interprète cette partition. Et chaque lecteur l'interprète à sa façon. Et ça, c'est la magie, au part essentiel de la magie de la littérature. Il y a un énorme malentendu ici. C'est pas l'auteur, le protagoniste de la littérature, l'écrivain, c'est le lecteur qui finit le livre.
Pour autant, Javier Sarquez, votre livre Indépendance, c'est assez difficile de le lire autrement que comme une critique des élites et de la façon dont elles dominent, organisent, dirigent le monde sous couvert de démocratie. Et ça m'intéresse parce que je vous ai un jour entendu dire que vos livres étaient tous profondément anti-système.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Comme toujours la littérature, c'est un appel à l'insurrection. C'est ça. C'est-à-dire à vivre une vie indépendante, à vivre une vie intense, à vivre une vie vraie. Je comme personne, je suis complètement pro-système. C'est-à-dire, le système, c'est la démocratie. Alors, je crois à la démocratie complètement. Mais ce qui fait la littérature, c'est mettre en question, le roman en particulier, c'est mettre en question nos certitudes plus enracinées. C'est ça qui fait la littérature. Et de ce point de vue, la littérature est toujours anti-système.
Ça veut dire qu'en écrivant, il vous est arrivé que vos certitudes soient bouleversées. Que
vos
croyances soient bouleversées.
Oui. Quand je suis lecteur, oui, je veux ça dans un roman. Et je veux que le lecteur soit bouleversé. C'est-à-dire, en échange du plaisir, je veux que le lecteur soit incommode. Et se pose des questions qui sont pas agréables. Se dise à lui-même des choses qu'il pourrait faire, des choses qu'il n'est pas préparé pour accepter. Et c'est ça, la littérature. Pour moi, non, nous faire sortir de ce qu'on appelle aujourd'hui la zone de confort.
Alors précisément, on sort de notre zone de confort quand on lit Indépendance et on se dit que la démocratie, elle a quand même du plomb dans l'aile. Entre la corruption, les conflits d'intérêts, la montée des extrêmes, l'omnipotence des médias et des réseaux sociaux, dont vous montrez l'étendue des pouvoirs. Javier Sarquez, quel avenir pour nos démocraties ?
Bon, ça dépend de nous. La démocratie parfaite n'existe pas. La démocratie parfaite, c'est une dictature. C'est-à-dire, Franco, le général Franco, appelait sa dictature une démocratie organique. Il y avait aussi les démocraties de l'Est, vous vous souvenez, qui s'appelaient démocratie populaire. La démocratie, c'est toujours imparfaite. Et ce qui défie la définition de la démocratie, la vraie démocratie, c'est toujours imparfaite, mais infiniment perfectible. Et chaque jour, on doit perfectionner ça. Et ça dépend de nous.
C'est un peu comme un livre, ça dépend de nous aussi.
Absolument, oui, exactement.
Vous savez qu'il y en a une qui n'a pas beaucoup d'avenir dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, Javier, c'est la culture et son actualité qui prie chaque jour pour son salut. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 3 juin ?
Voyage, voyage.
Réenchanter le monde, c'est la promesse ô combien nécessaire de la 32e édition du Festival Étonnant Voyageur qui s'ouvre demain à Saint-Malo, enfin déployé sans restriction. La manifestation promet d'orchestrer les retrouvailles de la littérature, du cinéma, du dialogue, de la rencontre. On y attend 250 écrivains, dont vous, Javier Sarquez, aux côtés notamment de Mohamed Mbougarsar, Nancy Houston, Riyad Satouf ou l'écrivain ukrainien Andrei Kourkov, invité d'honneur du festival. On y verra aussi une cinquantaine de films, des expos, des concerts, des cafés littéraires, cap à l'Ouest.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais.
Tous au vert, c'est aujourd'hui que débute la 19e édition des Rendez-vous au Jardin, une initiative du ministère de la Culture pour faire connaître au public le patrimoine botanique du pays et nous sensibiliser aux enjeux et dangers qu'il menace. Articulé autour du thème « Les jardins face au changement climatique » organisé partout en France, on nous propose de découvrir plus de 2200 espaces verts, dont près de 400 à titre exceptionnel, au programme balades, ateliers, portes ouvertes et conférences. Toutes les infos sur rendez-vous-au-jardin.culture.gouv.fr.
I saw 2001 with Zarathustra, and I was in shock.
Lumière sur Ridley Scott. Pour clore sa saison, l'Institut Lumière à Lyon propose jusqu'à mi-juillet une grande rétrospective de l'œuvre du cinéaste britannique, maître du spectaculaire, naviguant entre les genres, les époques, les espaces, passant du péplum antique à la saga SF, du film de gangster à la dystopie futuriste. Ridley Scott semble n'avoir eu de cesse de réfléchir à ce qui fait l'essence, la grandeur, l'horreur de l'humanité. Guerre, lutte de pouvoir, conquête, trahison. L'institution lyonnaise projette 23 films, parmi lesquels les classiques Alien, Blade Runner, Thelma et Louise, Gladiator ou encore Seul sur Mars, la classe.
Ça tourne dans ma tête, ça tourne dans ma tête, ça tourne dans ma tête.
Le J, c'est le S. Le rappeur marseillais phénomène Jules sera à l'honneur tout le week-end sur la Canebière et partout ailleurs. Avant son concert de samedi soir à domicile au Vélodrome, l'infatigable punchliner et plus gros vendeur de disques de l'histoire du rap français a dévoilé cette nuit Extraterrestre, son 17e album studio porté par les singles Ça tourne dans ma tête et Superstar. Le concept en plus de 20 nouveaux morceaux et autant de clips inédits, le rappeur va faire gagner sur tirage au sort 20 NFT du projet, dont une partie des bénéfices sera reversée à l'UNICEF. Merci l'OVNI. Et l'écrivain espagnol Javier Cercas, invité de Boomerang ce matin pour Indépendance, deuxième volet d'une trilogie initiée par Terra Alta en 2021, où on retrouve votre inspecteur Melchor. Et c'est un polar, Javier, un genre qui est souvent, et à juste titre, qualifié de populaire. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce mot ?
Je suis complètement pour la popularité de la littérature. Aussi, c'est une autre des superstitions de notre temps. Cette idée, dans les milieux littéraires, que la bonne littérature, c'est seulement la littérature secrète, oui, minoritaire, des catacombes. Ça, c'est ridicule. C'est-à-dire, jamais a été comme ça. C'est pas nécessairement comme ça. C'est-à-dire, le meilleur roman que je connais a été incroyablement écrit par un Espagnol qui s'appelle Miguel de Cervantes. Et c'était un livre, Don Quichotte, énormément populaire. Énormément populaire à son époque. Mais Shakespeare était un écrivain énormément populaire. Tous les deux n'ont pas été très prestigieux. Je sais pas, mais Les Misérables, que c'est le livre fétiche, le livre essentiel pour Melchor Marín, ce livre a été un succès extraordinaire. Les grands écrivains du 19e siècle, Balzac, Dickens, etc., ils ont été énormément populaires. C'est-à-dire, ce que je dis, c'est pas que seulement la littérature populaire soit bonne littérature. Ça serait ridicule complètement. Ce que je dis, c'est qu'elle n'est pas nécessairement mauvaise et que le meilleur que peut succéder à la littérature est de redevenir populaire, de dire des choses importantes, relevantes au public, à les gens, à l'auditeur.
Mais alors justement, le genre du polar, qu'est-ce qu'il vous permet à vous, en tant que romancier ?
Je ne sais pas. C'est-à-dire, je ne voulais pas écrire en polar, c'est ça la vérité. Bon, Borges, que c'est mon maître, le grand écrivain argentin, disait que tous les romans sont des polars. Je suis d'accord avec lui. Tous mes romans ont été toujours des polars et tous les romans que j'aime sont en certain sens.
C'est-à-dire cette idée de suivre une enquête, d'élucider exactement un mystère, de chercher la vérité, en fait.
Exactement. Il y a toujours un énigme, quelqu'un qui veut déchiffrer un énigme. C'est vrai que dans ces romans, dans ces trilogies, il y a un flic au moins au commencement, il doit résoudre un cas et tout ça, alors l'atmosphère de polar, c'est plus clair. Mais tous mes romans sont comme ça. Et oui, il y a aussi cette superstition, à nouveau, l'idée que le polar, c'est un genre mineur. Bon, c'est impossible de lutter contre ces préjugés, complètement impossible, comme contre tous les préjugés. Ce qu'on peut dire seulement, c'est que qui pense ça, qui pense que les polars sont un genre mineur, ne sait pas ce que c'est la littérature. Parce qu'en littérature, il n'y a pas de genre mineur ou majeur. Il y a seulement des formes mineures ou majeures d'utiliser les genres, meilleur ou pire d'utiliser les genres. C'est-à-dire, il y a la tragédie, que c'était les grands genres pour Aristote, par exemple. Non, il y a des écrivains très bons, non, je ne sais pas, Shakespeare, Sophocle, tout le monde connaît. Mais il y a énormément de choses qui sont très peu important, c'est très mauvaise. Avec les polars, c'est la même chose.
Alors justement, on parle quand même de polars, on parle d'enquête, on parle de mystère. Au fond, Javier Sarkaz, qu'est-ce que vous cherchez, vous, à travers l'écriture ?
La vérité.
La vérité ?
Oui. Mais la vérité de la littérature n'est-ce pas la vérité du journalisme, n'est-ce pas la vérité de l'histoire ?
Ça veut dire que c'est une vérité en question ?
Oui, c'est une vérité morale, c'est une vérité universelle. C'est-à-dire, ce qui cherche la littérature, c'est pas comme le journalisme ou comme l'histoire, ce qui se passe dans un lieu concret, dans une circonstance concrète, à certaines personnes. Ce qui cherche, c'est ce qui nous passe à tout le monde, dans toutes les circonstances et tous les pays. Et non, c'est ça, là. Et cette vérité, c'est toujours, contrairement à la vérité du journalisme, c'est toujours, ou la vérité de l'histoire, c'est toujours une vérité ambiguë, polyétrique, souvent contradictoire.
Et c'est ça.
Et ça, c'est la vérité que je cherche.
Alors, c'est intéressant parce que votre terrain, si je puis me permettre, Javier Sarkaz, c'est l'exploration de l'histoire de l'Espagne du XXe siècle, de ses tragédies, de ses violences, de ses silences, notamment en allant puiser dans votre mémoire familiale. Je pense évidemment à votre livre « Le monarque des ombres », les spectres de la guerre civile et du franquisme. En quoi est-ce qu'ils continuent de façonner le présent de l'Espagne ? Où est-ce qu'on les voit encore aujourd'hui ?
On voit toujours les passés au présent, pas seulement en Espagne. C'est vrai qu'en Espagne, la guerre civile a été essentielle. Elle n'a pas duré, comme on dit le livre d'histoire. Le livre d'histoire dit que la guerre d'Espagne était 3 ans. C'est faux. Ça a été 43 ans, parce que la dictature a été la guerre par d'autres moyens. Et alors, c'est toujours, hante toujours les présents. Mais ça, quand j'étais jeune, je pensais que mon pays était complètement différent des autres pays. C'est complètement faux. Dans tous les pays, y compris la France, les passés est présent. C'est-à-dire, ce qui font mes livres, ou certains de mes livres, c'est lutter contre ce que j'appelle la dictature du présent. C'est l'idée que le présent, c'est seulement aujourd'hui. C'est faux. Les passés, et surtout les passés duquel il y a mémoire, il y a témoin, est encore ici. C'est une dimension du présent sans laquelle le présent est mutilé.
Mais alors, ça fait de la littérature une démarche profondément résistance, parce que dans une société où domine ce que vous appelez la dictature du présent, le règne de l'immédiateté, de l'information en continu, il n'y a pas de place pour le passé.
Alors, c'est la littérature, cette place.
Dans quelle mesure la dictature du présent instaure-t-elle une temporalité, quand même, qui s'accorde mal avec le temps de la lecture et de la littérature, Javier Sarkaz ?
Je ne sais pas. Mais je m'en fous, honnêtement. C'est-à-dire, la littérature, c'est énormément important et je crois qu'il faut trouver l'espace et les moments. Et si on ne trouve les moments et l'espace pour ça, c'est comme qui ne trouve pas la place et l'espace pour le sexe. Et on parlait avant de ça, c'est la même chose. Je m'en fous complètement. C'est-à-dire, c'est une chose très importante. Il faut trouver l'espace, il faut trouver le temps, il faut, pour faire des choses importantes qui donnent un sens à notre vie.
C'est une démarche, en tout cas.
Oui, vous avez parlé de résistance. Ok, c'est bien. C'est une parole qui est correcte pour moi. Résistance.
Tout à l'heure, je vous demandais quel avenir vous imaginez à nos démocraties. Vous me répondiez, ça dépend de nous. Oui. Quel avenir est-ce que vous imaginez pour la littérature, Javier ?
Ça dépend aussi de l'écrivain et de l'acteur qui fait aussi la littérature. Mais je ne pense pas que la littérature est morte. Qui dit que la littérature est morte, peut-être c'est lui qui est mort. Mais je ne sais pas. Je vous le dirai avec mon prochain livre. Oui, mais je crois que c'est-à-dire, on parle par exemple de la série de télévision, ça tuera, je ne sais pas quoi. Ça, c'est toujours se dit ça. Il y a toujours les amoureux de l'apocalypse. Je ne crois pas à ça. Je crois que la littérature a un énorme avenir, et au moins si beau comme le passé. Parce que nous avons besoin de la parole. La parole, c'est essentiel.
On va reparler ensemble de parole, de littérature, de passé, de présent, juste après Bob Dylan. My Back Pages, au Madison Square Garden en 1992. Il était accompagné par George Harrison, Neil Young, Eric Clapton, Tom Petty, entre autres. Et c'est vous qui m'avez demandé de la passer. Vous êtes sur France Inter avec le grand écrivain espagnol Javier Sarkaz. Vous écoutez Boumang, évidemment.
So
C'est intéressant parce qu'on est quelque part entre François Hollande, le psychanalyste, et François Cluzet. Il a la lunette présidentiable et l'œil oiseau perché, le sourire cinéma, la dent Actor Studio, avec sa chemise rayée qui n'a, dit-il, aucune histoire, cette chemise. Le romancier espagnol Javier Cercas, invité de Boomerang ce matin pour Indépendance, un livre où l'on suit votre inspecteur Melchior, délinquant, repenti, entré dans la police après avoir lu Les Misérables, qui est devenu une sorte de héros après les attentats de 2017 à Barcelone et qui se retrouve à son insu au centre d'un livre du nom de Terra Alta, écrit par un certain Javier Cercas, c'est-à-dire vous, Javier.
Oui, c'était inévitable pour moi. Je ne peux pas penser au roman sans humeur, sans sens de l'humeur, sans ironie. Et si on ne peut pas, on ne rit pas de... Si vous ne rivez pas de vous-même, vous n'avez pas le droit de rire de personne, de rien.
Alors, fait de vous un personnage, en fait, tout simplement.
Oui. Oui,
mais alors, quel personnage est-ce que vous êtes, tiens, Javier Cercas?
Je ne sais pas, j'écris pour les savoir et je crois.
Mais qu'est-ce qui se joue pour vous à travers cette mise en abîme, cette mise en scène de vous-même et de votre travail au sein du roman?
Non, j'insiste, c'était inévitable pour moi. C'est-à-dire, Terra Alta, le premier volet, s'est publié en 2019. Alors, c'était logique pour moi qu'il y avait des gens qui avaient lu ce livre et qui demandaient à Melchior, est-ce que vous avez lu ce livre? Vous savez qu'il y a un roman qui parle sur vous? Et Melchior dit non. Et qu'ils disent, ouais, mais tu dois le lire. Et il dit non, parce qu'il seulement lit livre du 19e siècle. Parce que le français, qu'il a introduit à la littérature, lui a dit que tout le reste, c'est bavardage. Et oui, alors c'était une opportunité de rire de moi-même, non? Parce qu'on parle tout le temps de ce Javier Cercas qui invente tout, que c'est un merdeur et que...
Vous êtes un emmerdeur, vous.
Oui, quand il dit que tout est vrai, tout est faux, quand il dit que tout est faux, tout est vrai. Alors, c'était l'opportunité idéale de rire de moi-même.
C'est une bonne question, parce que ce que vous posez comme problématique, c'est quand même celle du brouillage de la frontière entre le réel et la fiction. Le réel, justement, quelle matière est-ce que c'est pour vous?
Bon, le réel existe. C'est-à-dire, le réel, c'est le matériel de la fiction. C'est-à-dire, la fiction pure n'existe pas. La fiction pure, c'est une invention des gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la fiction. La fiction part toujours, l'origine de la fiction, les carburants de la fiction, c'est la réalité. On m'a dit souvent, est-ce que vous mélangez la fiction et la réalité dans vos livres? Est-ce que ça c'est possible? Et la réponse est très claire. Dans le journalisme, non. Dans l'histoire, non. Mais dans les romans et dans la fiction, dans la littérature, on l'a fait toujours. D'Homère jusqu'à ces moments. C'est-à-dire, ben, Shakespeare est plein de personnages réels. Cervantes, Dante, tout le monde est plein. Et alors, mes livres, je le fais d'une façon particulière, mais bon, ça c'est...
Mais votre goût pour la fiction, il vient d'où? Il remonte à quand?
Je crois de la malaise à la réalité. C'est-à-dire, je ne me sens bien à la réalité. La réalité, c'est toujours... il n'y a pas une satisfaction à la réalité. Humankind cannot bear too much reality. A dit, l'espèce humaine ne peut pas supporter trop les réalités, a dit T.S. Eliot, grand poète anglais. Et je crois que c'est comme ça. La réalité, c'est insuffisante. La réalité, c'est souvent dur. La réalité, bon, c'est comme ça. Alors, on invente une autre réalité pour vivre ces qu'on ne peut vivre, on ne peut pas vivre dans la réalité. C'est
vous
une satisfaction permanente.
Javier Cercas, la littérature vous a augmenté.
Augmenté, oui, ouais, sans doute, oui. Ma vie est plus pleine, plus. On revient à l'idée de l'utilité de la littérature. Est-ce qu'il y a une chose plus utile qu'avoir une vie plus pleine, plus intense? Je ne connais pas.
Diriez-vous que la littérature vous a rendu plus libre?
Ah, mais sans doute. Oui, sans doute.
En quoi?
Oui. En tout. Parce que ce qui veut le pouvoir, c'est nous contrôler. Et ce qui fait la littérature, c'est nous permettre de contrôler les langages, que c'est le pouvoir. Alors le pouvoir, tout pouvoir, même le pouvoir démocratique, veut contrôler le langage. Notre métier, comme écrivain, comme citoyen, c'est avoir le contrôle de ce langage. Ne pas permettre que le pouvoir prenne contrôle de ce langage. Pourquoi? Parce que le pouvoir veut toujours mensonge. C'est l'instrument essentiel du pouvoir. L'évangile dit la vérité vous fera libre. Ça signifie que les mensonges font des esclaves. Et c'est ça le métier de l'écrivain, de ne pas permettre que le pouvoir contrôle le langage.
Il se trouve, Javier Cercas, que vous nous avez écrit un texte ce matin qui répond à ces questions. Et j'aimerais beaucoup que vous nous le lisiez, si vous voulez bien.
Oui, enchanté. S'appelle « En danger public ». Il dit comme ça. « La littérature est une manière de vivre plus fort, d'une façon plus riche, plus complète, plus intense. Ce n'est pas un hasard si c'est précisément ce qu'évoquent les meilleurs romans jamais écrits, à commencer par les Quichotte. Le protagoniste de ce livre, qui en réalité ne s'appelle pas Don Quichotte, mais Alonso Quijano, est avant tout un lecteur. Et son problème n'est pas, comme on le prétend, qu'il confond la réalité avec la fiction, les moulins à vent avec des géants, mais qu'il veut faire de la fiction une réalité. Alonso Quijano a passé sa vie enfermé, occupé à lire des livres d'aventure et à s'imaginer, grâce à ses livres, vivre une vie pléthorique, jusqu'à ce qu'il se dise à lui-même que ça n'était assez, que c'était terminé, et qu'il s'invente alors un chevalier appelé Don Quichotte avec lequel aller à travers les mondes pour connaître vraiment ce qu'il n'avait jusque-là vécu que par la fiction. C'est à peu près ce qui arrive à Emma Bovary. Comme Alonso Quijano, Emma est-elle aussi une lectrice acharnée, et ses livres de chevalerie, ce sont les histoires romantiques. Elles lui font concevoir les projets insensés de devenir à son tour une héroïne romantique, tout comme Alonso Quijano est devenu l'héroïque Don Quichotte. Les deux personnages sont en ce sens de lecteurs idéaux, de parfaits emblèmes du lecteur. Et le roman dont ils sont les protagonistes contient une invitation à l'aventure plus audacieuse, plus révolutionnaire et subversive, celle de vivre en accord avec nos désirs. Dès lors, on comprend que Platon ait voulu expulser les poètes de sa république idéale, et que depuis l'époque de Platon, tant de tyrans, d'inquisiteurs et de commissaires politiques ont dénoncé les dangers de la littérature en général, et du roman en particulier. Ils ont absolument raison. Un homme ou une femme avec un bon livre à la main est en danger public. Une bombe à retardement ambulante, une potentielle livre-penseur, une insubordonnée en puissance. Un homme ou une femme capable de dire non quand tout le monde autour de lui dit oui, comme le font de façon radicale Alonso Quijano et Emma Bovary. Parce qu'elle est faite de paroles en rébellion, l'authentique littérature représente toujours un danger pour le pouvoir, pour n'importe quel pouvoir. Et c'est pour cette raison que le pouvoir veut toujours la contrôler. Il est même surprenant qui ne l'est pas encore, interdite.
Ce que vous nous dites, Javier Cercas, c'est que la littérature crée des rebelles. Ma dernière question, qu'est-ce qu'il y a de plus rebelle en vous ?
Ah, bonne question. La littérature, j'ai quoi ? C'est mon instrument de rébellion, l'essentiel.
C'est une bonne réponse. Merci infiniment, Javier, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle qu'Indépendance, votre nouveau roman, est publié chez Actes Sud dans une traduction d'Alexandra Grujicic et Karine Louesdon, que c'est un livre qui se dévore de la première à la dernière page et qu'on vous retrouvera ce week-end à Saint-Malo pour le festival Étonnant Voyageur. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Boomerang. Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Victor Candelaft, Pierre Démé et Jean-Baptiste Audibert pour cette belle semaine. On se retrouve évidemment lundi, tout de suite les médias. Sonia De Villers et son Instant M, c'est juste après ça.
Fil coupé, pendu sous le combiné. Rhum, clope, rancune, j'ai tout combiné. Le sang qui bout comme une marmelade. Faut être un sacré con pour me dire relax. Dites à mon destin de mordre le tir. Oh, je vais lui refaire la gueule au fer 7. Rien n'est dans le bon ordre, faut tout inverser. On fête mon départ, pas mon anniversaire. Le ciel est triste, que du gris dans la ville. Envie de prendre un acide et tout colorier. Qu'est-ce qu'on s'emmerde, ah ouais c'est plus comme avant. La ville lumière se repose sur ses lauriers. Discret casquette, baissée sur la cabeça. Le ciel devient bleu, mais je peux regarder que mes sables. Prends plus d'appels, je lis plus aucun message. Être has-been, ça rend naïf. Bah ouais, je pouvais qu'aimer ça. Personne ne le comprendra, personne. Je suis le mauvais ordre en personne. Je me sens moi-même comme personne. Fallait que je tombe sur cette ville. 8 milliards d'autres chemins. Fallait que je tombe sur cette vie. Et je sais qu'on est fait pour s'aimer. Mais j'ai quand même peur de passer à côté de mieux. Y'a jamais assez de miel sur le MCMN. Faut que je profite, c'est le dernier samedi de la semaine. Faut que je profite, c'est le dernier samedi de la semaine.
L'homme pâle, il s'appelle T et il est 9h40 sur France Inter. Tout de suite les médias avec Sonia à l'instant M.
Ça va Augustin ?
Ah bah toujours quand je vous ai au téléphone. Parce qu'on est presque au téléphone, oui, somme toute.
Oui, parce qu'on n'est pas dans le même studio.
Exactement. On est quelques,
bon, ben,
quelques mètres nous
salut,
séparent.
Salut, bon week-end, on se retrouve lundi.
Évidemment.
Allez, bye bye.
Salut.